Vous écoutez On lit pour vous.
Qu'adviendra-t-il des millions des baby boomers? Un dossier de Louise Leduc, paru le 12 mai 2024 dans la presse. Hérité ou pas, telle est la question. À l'heure où les baby boomers entrent graduellement dans le grand âge, le patrimoine qui sera légué à la génération suivante sera sans précédent. Si chaque Canadien recevait le même héritage, les inégalités entre les avoirs nets de chacun seraient réduites de 40 % révèle une étude publiée en 2022 dans le Journal of Economic Inequality. Elle résume bien, aux yeux de la sociologue Maud Pugliese, combien le fait d'avoir un héritage ou pas teinte le destin financier de chacun et creuse les inégalités en raison de l'effet boule de neige par lequel les plus riches deviennent plus riches en grande partie parce qu'ils ont reçu plus d'héritage, relève Mme Pugliese. Comme Mme Pugliese, Richard Gay, professeur en finance à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, insiste sur le fait que la transmission du patrimoine sera très inégale d'une famille à l'autre. D'un côté, il y aura ceux qui hériteront d'un bon magot. De l'autre, ceux qui n'obtiendront presque rien parce que leurs parents ont été locataires, sont morts endettés ou ont vécu d'une rente viagère qui s'éteint avec eux. Selon un sondage Ipsos, réalisé en 2023 pour le compte de la Sun Life auprès de Canadiens, les baby boomers qui comptent léguer tous leurs avoirs à leurs enfants espèrent leur transmettre 940 000 $ en moyenne. Une somme largement supérieure à ce à quoi s'attendent leurs héritiers qui croient ne recevoir que 309 000 $. Nous assistons à la plus importante transmission de patrimoine d'une génération à l'autre de l'histoire du Canada, estimait Rowena Chan de la Sun Life, au moment de la diffusion de ce sondage. Julie, qui est dans la quarantaine, explique que l'héritage reçu récemment de son père lui a permis de régler l'ensemble de ses dettes. « Ça m'a enlevé beaucoup de stress », dit celle qui a demandé à ce que son nom ne soit pas divulgué, étant donné la nature privée de ses questions. Ceux qui seront privés d'héritage n'auront jamais cette chance. Mais l'accroissement des inégalités est-il inévitable pour autant? Richard Gay note qu'à tout le moins, tant le fédéral que le provincial viennent d'augmenter l'impôt sur le gain en capital, ce qui se traduira par une certaine redistribution de la richesse. C'est clair que cette mesure vise notamment les impôts sur les héritages, note-t-il. Antoine Genet-Grégoire, professeur adjoint en fiscalité à l'Université de Sherbrooke, signale qu'on pourrait aller plus loin. Pour mieux redistribuer la richesse, on pourrait envisager d'offrir une dotation en capital à tous les jeunes adultes. Essentiellement, on prélève sur des héritages très inégaux pour donner à tous un capital uniforme de début de vie, explique-t-il. Ce capital peut servir à payer les études, démarrer une entreprise ou servir de mise de fonds pour un logement. Une pension pour jeunes adultes? Monsieur Genet-Grégoire répond que quand cette idée est abordée, on pense à un seul montant offert à la majorité. Léguer avant de mourir. Pour la génération des baby boomers, plus que jamais, la différence dans la taille des héritages tiendra en bonne partie au fait que les personnes qui décèdent sont ou pas propriétaires d'une maison, surtout à Montréal ou dans les autres marchés immobiliers favorables, fait observer M. Gay. Mais il y a plus. Car à la différence des générations précédentes, les baby boomers sont beaucoup plus nombreux à s'être constitué un portefeuille de placement, ce qui était autrefois réservé à une élite économique, poursuit M. Gay. La descendance nettement moindre des baby boomers se traduit aussi par de plus grandes parts d'héritage à chacun des héritiers. L'espérance de vie des baby-boomers étant cependant très élevée, leurs enfants risquent d'être déjà très installés dans la vie au moment de toucher l'héritage. À moins, comme cela arrive plus que jamais, que devant le très difficile accès à la propriété, les parents ne décident de léguer une partie de leur argent de leur vivant. Vous écoutez « Qu'adviendra-t-il des millions des baby-boomers ?» un dossier de Louise Leduc paru le 12 mai 2024 dans la presse. Née dans le bas du fleuve, au sein d'une famille de 9 enfants, Pierre, qui a lui aussi demandé l'anonymat comme il s'agit d'argent, a lui-même déjà un peu distribué son patrimoine. Son fils a reçu 20 000 $. Il en avait besoin pour ses travaux. Moi, à part m'être acheté une moto, je n'ai que très peu de dépenses. À partir des années 1940, la descendance finale est passée sous le seuil de 2 enfants par femme, et Pierre, comme tant d'autres, en a eu 2. Puis, il a divorcé, travaillé toute sa vie comme fonctionnaire, acheté une maison à Québec. C'est la valeur de sa maison qui sera léguée en totalité à ses enfants, qui empocheront chacun quelques centaines de milliers de dollars à son décès. « Je n'ai jamais eu d'héritage, » dit l'homme de 70 ans. « Comme mes enfants ont eux-mêmes des petits-enfants, j'ai envie de leur laisser quelque chose, même s'ils sont plus riches que moi. » Dans mon entourage, chez ceux qui ont eu une belle carrière, c'est la grande tendance. Ce n'est pas à 60 ans, quand ils seront presque eux-mêmes à la retraite, que les enfants ont besoin d'argent. C'est quand ils veulent s'acheter une première maison et avoir des enfants, nous dit Richard Gay, professeur en finance à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. La sociologue Maude Pugliese a bien relevé cette tendance dans l'une de ses enquêtes. Aux gens de 25 à 34 ans, à qui elle a demandé s'ils avaient reçu de l'aide financière dans les 5 précédentes années, 47% ont répondu par l'affirmative. Là-dessus, 90% ont été aidés par leurs parents et 20% ont aussi dit avoir reçu de l'argent de leurs grands-parents. Et 23% des gens de 45 à 54 ans ont aussi dit avoir reçu de l'aide. D'ailleurs, les grands-parents, qui feront hériter une partie des baby-boomers, sont eux-mêmes nombreux à avoir une bonne petite cagnotte, fait-elle observer. Le patrimoine moyen des personnes de 80 ans et plus a augmenté davantage que celui des moins de 80 ans au Québec depuis 1999, selon l'enquête sur la sécurité financière 1999-2019 de Statistique Canada. Deux tabous, la mort et l'argent. L'héritage réunit 2 grands tabous, l'argent et la mort. Alors, au décès, quand un patrimoine a été constitué, surprise il y a souvent. Symboliquement, les questions d'héritage remuent bien des gens. Plusieurs n'osent même pas penser qu'ils peuvent en recevoir un, explique la sociologue Maude Pugliese. On n'aime pas penser à la mort de nos proches, qui vient en plus avec un changement de statut dans la famille. Cela signifie que le patriarche ou la matriarche, c'est nous, qu'il n'y a plus personne en haut de soi. De son côté, Maître Marie-Ève Brown, notaire émérite, raconte se retrouver souvent avec des enfants déçus dans son bureau. De nombreux baby-boomers ont divorcé et se sont remariés, rappelle-t-elle. Les enfants de la première union, qui croyaient hériter de tout parce qu'un testament du défunt a bel et bien été fait en ce sens, sont souvent fâchés d'apprendre que la nouvelle épouse a statutairement droit à la moitié de la valeur de la maison, des meubles, de l'actif accumulé pendant la vie commune, etc. Il faut se renseigner sur les droits matrimoniaux, insiste Maître Brown. Mieux vaut aussi ne pas éviter les discussions difficiles. Une personne qui pressent que son père et sa mère n'en ont plus que pour 1 an ou 2 peut se mettre à dépenser davantage en comptant sur un héritage de 500 000 $. S'il n'est finalement que de 125 000, ça change la donne, nous dit Maître Marie-Ève Brown. Dans la famille de Julie, c'est plutôt la deuxième femme, mal renseignée, qui est tombée de haut. Elle croyait qu'elle aurait la totalité du patrimoine, alors qu'en fait, mon père s'était assuré de faire hériter ses enfants. Vous écoutez « Qu'adviendra-t-il des millions des baby-boomers ?» un dossier de Louise Leduc, paru le 12 mai 2024 dans la presse. Et ceux qui ont tout dépensé? La taille de l'héritage dépend beaucoup de la chance qu'ont eue nos parents ou nos grands-parents, mais aussi de leur valeur. Étaient-ils de petits écureuils? Des gens qui profitaient de la vie un peu? Beaucoup? Monsieur Gay ne juge aucunement ses amis qui, contrairement à lui, décident de profiter de la vie à fond et de ne pas transmettre d'argent à leur mort. Certains se disent que le cadeau qu'ils ont fait à leurs enfants, c'est de leur payer l'université. Et de fait, dans bien des cas, estime Monsieur Gay, les héritiers qui ont eu une éducation universitaire ont déjà reçu beaucoup. Sans compter, souvent, les très beaux voyages à l'étranger en famille dont ils ont profité dès leur plus jeune âge. La transmission de patrimoine, à la mort ou par l'aide financière à ses enfants de son vivant, se superpose déjà à des trajectoires professionnelles divergentes entre les enfants ayant grandi dans des familles plus ou moins favorisées, fait observer Xavier Saint-Denis, professeur adjoint de l'Institut national de la recherche scientifique. Le niveau d'éducation et le revenu des parents influencent les études que feront les enfants et les revenus qu'ils en tireront, ajoute Xavier Saint-Denis, ce qui se traduit notamment par des inégalités dans la capacité d'épargner. Les parents instruits encourageront souvent leurs enfants à aller aussi à l'université. Ils leur donneront un coup de pouce financier qui leur évitera de trop se soucier de leur budget pendant leurs études. Mais il n'y a pas que cela. L'entourage familial sera aussi souvent composé de gens qui ont bien réussi et qui pourront inspirer les jeunes, les guider dans le choix d'une carrière, etc. C'est ce que les sociologues appellent le capital scolaire et culturel. Une autre forme de capital, donc, qui peut être transmis et qui a un impact sur la qualité de vie et les inégalités. Le Québec libre, même dans la mort. En matière d'héritage, le Québec fait bande à part, car contrairement à de nombreux pays basés aussi sur le droit civil, ici, exception faite des conjoints mariés qui touchent nécessairement un héritage, chacun est libre de céder son patrimoine comme il l'entend, y compris de déshériter ses enfants, contrairement à la France. À l'image de leur propension à vivre en union de fait, sans contrainte légale, les Québécois ont en effet la liberté de tester, de faire leur testament à leur goût, quoi. En 1989, au moment où le Québec a créé le principe du patrimoine familial pour les couples mariés, l'idée de limiter cette liberté testamentaire a été évoquée, explique Maître Christine Morin, professeur de droit à l'Université Laval. À l'époque, certains disaient qu'il fallait s'assurer de répondre notamment aux besoins des enfants. Mais c'était là la position minoritaire, parce que les Québécois restent très attachés à leur autonomie. Un quart de siècle a passé. Peut-être le temps est-il donc venu de tâter le terrain pour voir si le consensus social demeure, avance Maître Christine Morin. C'était « Qu'adviendra-t-il des millions des baby-boomers ?» un dossier de Louise Leduc, paru le 12 mai 2024 dans la presse.
La pauvreté remonte au pays depuis la fin de la pandémie. Un texte d'Éric Desrosiers, paru le 3 mai 2024 dans Le Devoir. L'envolée du coût de la vie, bien sûr, mais aussi la fin des programmes d'aide spéciaux déployés pour amortir le choc économique de la COVID-19, est en train d'effacer les gains contre la pauvreté qui avaient été réalisés récemment. C'est l'un des effets inattendus qu'avait eu la pandémie. Soucieux d'amortir le choc économique de la pandémie de COVID, les gouvernements ont tant et si bien élargi leurs filets sociaux que les finances des ménages se sont globalement améliorées malgré la crise au Canada. Au Québec, le revenu médian après impôt des familles a ainsi bondi plutôt que reculé de 61 100 $ en 2019 à 65 900 $ l'année suivante, en dollars constants de 2022, à la faveur notamment d'une augmentation des transferts gouvernementaux de 11 100 $ à 18 500 $ et en dépit d'une diminution de leurs revenus du marché de 55 200 $ à 52 400 $ a rapporté la semaine dernière Statistique Canada. Renversement de situation. Cette dynamique allait toutefois rapidement se renverser par la suite, le niveau réel des salaires étant reparti à la hausse en 2021, 58 000 $, avant de stagner en 2022, 57 500 $ en raison de l'inflation, alors que les gouvernements refermaient graduellement le robinet de leurs transferts entre 18 500 $ en 2020 et 13 300 $ en 2022. Au total, le revenu réel médian après impôt des ménages a ainsi reculé au Québec, passant de 65 900 $ en 2020 à 64 600 $ en 2022. 6,6%. La proportion de Québécois vivant sous le seuil officiel de la pauvreté est passée de 4,8% en 2020 à 6,6% en 2022. Ce phénomène n'a pas épargné les familles les plus modestes. En diminution graduelle depuis au moins le début des années 2000, à l'exception des sursauts connus au lendemain de la crise financière de 2008-2009, ainsi qu'au milieu des années 2010, la proportion de Québécois vivant sous le seuil officiel de la pauvreté au Canada a baissé d'un coup avec la pandémie, 8,9% en 2019 contre 4,8% l'année suivante, avant de remonter à 5,2% en 2021, puis à 6,6% en 2022. Cela restait toutefois mieux que dans n'importe quelle autre province canadienne, notamment en Ontario, 10,9%. Mais cette moyenne générale cachait aussi des proportions beaucoup plus élevées chez les jeunes de moins de 18 ans qui grandissent dans une famille monoparentale, 14,5% en particulier, et chez les personnes seules, 19,3%. 26,4%. C'est la proportion des familles monoparentales qui vivent dans l'insécurité alimentaire modérée ou grave au Québec. Quant à la proportion de Québécois vivant dans l'insécurité alimentaire modérée ou grave, elle n'a fait qu'augmenter de 2019, 7,1%, à 2022, 10,8%, et se révèle particulièrement forte chez les personnes seules, 15,8%, et dans les familles monoparentales, 26,4%. Ce mouvement de yo-yo de la pauvreté durant la pandémie illustre le pouvoir que peut avoir en la matière un filet social plus ou moins généreux. Ce n'est toutefois pas le seul facteur en cause. Si l'on recule dans le temps, aussi loin que le permette la dernière édition de cette mesure, on constate que la proportion de familles québécoises sous le seuil officiel de la pauvreté avait diminué de 13,5% à 8,9% durant les 4 années qui avaient précédé la COVID, à la faveur notamment de la vigueur de l'économie et de l'emploi. Une autre mesure de la pauvreté. Le calcul de ce fameux seuil officiel de la pauvreté au Canada n'est pas parfait, font valoir des experts. Basé sur le coût d'un panier de biens et de services précis correspondant à un niveau de vie modeste et de base, cette mesure du panier de consommation, MPC, élaborée par le gouvernement fédéral, s'en tient tellement au strict besoin minimum qu'il y a lieu de l'accompagner d'une autre mesure qui tiendrait mieux compte des options disponibles et du coût réel sur le terrain en ce qui concerne la nourriture, le logement ou le transport, soutient depuis une dizaine d'années l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS. Cette mesure, avance l'IRIS, devrait également couvrir un ensemble un peu plus large de dépenses tout aussi essentielles, comme les soins de santé et les frais de garde non remboursés, un petit coussin financier en cas d'imprévu et une sortie occasionnelle au restaurant. Comme le font de temps en temps les statisticiens fédéraux pour la MPC, l'IRIS vient de mettre à jour le mode de calcul de son revenu viable. Sans surprise, son seuil reste plus élevé que celui de la MPC et a augmenté durant la dernière année sensiblement au même rythme que l'inflation. L'une des principales nouveautés, cette année, est qu'au lieu de se baser sur le prix moyen des loyers, on a calculé le coût du logement en fonction de ce que devrait payer quelqu'un qui chercherait aujourd'hui quelque part où se loger. L'IRIS arrive ainsi à la conclusion que, pour être viable, le revenu annuel après impôt d'une personne seule devrait être de 38 500 $ à Montréal contre 27 300 $ selon la MPC, de 30 700 $ à Trois-Rivières contre 25 800 $ selon la MPC et de 43 600 $ à Sept-Îles contre 25 500 $ selon la MPC. Pour une famille de deux adultes et deux enfants, le revenu minimal nécessaire devrait frôler les 82 000 $ à Montréal contre 54 500 $ selon la MPC, les 72 800 $ à Trois-Rivières contre 51 500 $ selon la MPC et les 86 600 $ à Sept-Îles contre 51 000 $ selon la MPC. Au-delà du salaire minimum, à la lumière de ces chiffres, ce n'est pas la hausse de 50 cents du salaire horaire minimum entré en vigueur cette semaine qui changera fondamentalement les choses pour les 200 700 salariés directement concernés. Désormais, de $15.75 l'heure, il permettrait tout juste à une personne seule travaillant 35 heures par semaine et vivant à Montréal de dépasser la MPC, mais il ne lui ferait faire que les deux tiers du chemin vers le revenu viable, dit l'IRIS. Pour passer ce dernier seuil, il faudrait travailler plus de 50 heures par semaine ou un salaire minimum de $27 l'heure. La prestation de base à l'aide sociale, 11 800 $, couvre, quant à elle, moins de la moitié de la MPC et moins du tiers du revenu viable. On a tendance à croire qu'il suffit de travailler pour sortir de la pauvreté. Mais notre économie crée une catégorie de travailleuses et de travailleurs pauvres qui, même s'ils travaillent 50 heures par semaine, peinent à répondre à leurs besoins, a déploré la chercheuse et autrice de l'étude de l'IRIS, Evelyne Couturier. C'était « La pauvreté remonte au pays depuis la fin de la pandémie », un texte d'Éric Desrosiers paru le 3 mai 2024 dans Le Devoir.
La réduflation ne frappe pas qu'à l'épicerie. Un texte de Éric Desrosiers paru le 20 avril 2024 dans Le Devoir. La hausse du coût de la vie n'est pas seulement observée dans le prix des légumes, le nombre de croustilles contenues dans chaque sac ou la recette des biscuits soi-disant au chocolat. On la voit aussi dans les heures d'ouverture des restaurants, dans les services offerts par les compagnies aériennes ou dans la compétence des vendeurs dans les magasins, quand on réussit à en trouver un. Petit portrait des nombreux autres visages de la réduflation et de la décaliflation. La forte augmentation du prix des biens, de la main-d'œuvre et d'autres intrants a placé les entreprises dans une position délicate. Devoir trouver des moyens de refiler la facture à leurs clients sans trop se les mettre à dos. Plutôt que de se contenter de faire passer le tout sous forme d'une simple augmentation de leurs prix, plusieurs ont fait le pari de réduire également la quantité de biens ou les services offerts au même prix, réduflation, ou de diminuer la qualité de ces biens et services, décaliflation. Comme les prix de l'alimentation ont particulièrement augmenté et que les dépenses d'épicerie sont fréquentes, tangibles et faciles à comparer, c'est surtout de ce côté qu'on a remarqué, par exemple, que l'ancienne boîte de 2 litres de jus d'orange n'en contient désormais plus que 1,65. Qu'il semble soudainement y avoir plus d'air dans les sacs de croustilles ou que la boîte de biscuits n'en compte plus 12, mais 10 aujourd'hui, et tout cela sans que les prix aient diminué. Mais les 10 biscuits, pour garder cet exemple, n'ont pas seulement fait l'objet d'une réduflation, aurait-on pu apprendre si l'on en avait lu attentivement les ingrédients. Le chocolat au lait, qui les rendait si délicieux, a été remplacé par un enrobage chocolaté, fabriqué à partir d'huile de palme, sûrement moins cher à produire, mais aussi probablement moins bon au goût ou pour la santé, décaliflation. Ces pratiques ne se limite pas aux produits, mais touche aussi les services, explique Maryse Côté-Hamel, professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval. En effet, la disparition des emballeurs aux caisses signifie que les clients ont droit à moins de services pour leur argent. Le remplacement de plusieurs caissières par des caisses libre-service se traduit aussi par un recul de la qualité du service parce que, quoi qu'ils en pensent, les clients sont toujours moins habiles et plus lents à effectuer ces tâches que les professionnels. De telles stratégies ne se limitent pas non plus à l'épicerie, note l'experte. Ça se fait aussi beaucoup ailleurs. Et peut-être de façon encore plus prononcée dans des secteurs comme le voyage, qui sont généralement considérés comme moins essentiels et où les gens oseront moins s'en plaindre. C'était « La réduflation ne frappe pas qu'à l'épicerie », un texte de Éric Desrosiers, paru le 20 avril 2024 dans Le Devoir.